Sur le plan juridique, le pape a la possibilité de démissionner. C'est prévu au canon 332 du Code de droit canonique. S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. Pratiquement, de démission de pape telle que celle que Benoît XVI est en train d'opérer, il n'y en a jamais eu, autant que je me souvienne. En revanche, des démissions de pape ou des mises à l'écart de pape plus ou moins forcées, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Au début du XIXe siècle, il y a eu la détention de Pie VII en France, à la demande de Napoléon, qu'il avait fait arrêter à Rome par le général Miollis, et transporté en France. Il paraît que Pie XII l'avait envisagé si on l'avait privé de sa liberté, parce que Rome était occupée, le Vatican était entouré, il y avait des sentinelles allemandes un peu partout. Hitler avait bien envisagé, dit-on, de sévir contre lui, mais on l'en a dissuadé, en lui montrant qu'en plus, il ouvrirait un front catholique contre lui en Allemagne, ce dont il n'avait pas besoin. Enfin, la démission historiquement la plus claire, c'est celle à la fin du XVe siècle, Célestin V, qui a été un peu poussé par son successeur.
Qu'est-ce qui est à l'origine de la démission de Célestin V? C'est le seul qui a démissionné de manière volontaire.
C'était un homme très, très modeste. Il est entré dans Rome monté sur un âne, n'est-ce pas? Qui s'est toujours trouvé incapable de remplir la tâche pour laquelle il avait été élu. Il avait été élu pour sa sainteté. Mais la sainteté, ça suffit pas pour gouverner l'Église, il s'en est rendu compte. Et par conséquent, il a démissionné. C'est le seul cas d'une démission claire et nette, mais pas absolument gratuite. Il a été un peu poussé à démissionner.
Vous avez dit que celle de Benoît XVI était vraiment particulière dans l'histoire. Pourquoi ?
Une démission comme celle-là, alors qu'il est en poste, qui n'est pas contesté, qu'il n'y a pas de rivalité, qu'il n'y a pas de crise, et la manifestation d'une conscience aiguë de ses devoirs de pape et de son état physique qui, à ses yeux, ne lui permet pas de continuer. D'autres papes qui n'étaient pas en meilleur état ne l'ont pas fait.
Vous avez parlé de Célestin V. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire aussi un parallèle sur l'humilité et la grandeur de la tâche?
Il n'y a aucune comparaison, aucun parallèle entre les deux hommes qui étaient de nature tout à fait différente. Célestin V était un ermite, loin du monde, qui n'avait pas l'usage du monde, tandis que Benoît XVI est l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il a exercé pendant plus de 20 ans des responsabilités très importantes à la curie. Et il connaît bien le monde, il y est inséré. Vous savez, à travers l'histoire, la singularité de la fonction pontificale et son autorité n'ont pas cessé de s'affirmer. Aujourd'hui, le pape dispose d'un pouvoir absolu dans l'Église, limité bien sûr par le droit canonique. Il ne peut pas changer le credo, etc. Enfin, je m'entends.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après cette démission, il y aura une nouvelle façon, une nouvelle manière d'être pape ?
Je ne crois pas. Pourquoi ? Chaque pape exerce la fonction en fonction de sa formation, de son tempérament, des exigences du moment, etc. Alors là, nous avons affaire à un pape intellectuel de métier, spécialiste de théologie, bon connaisseur de droit canonique. Par conséquent, je dirais, il exerce sa fonction de façon plus juridique, plus pastorale que politique. Par exemple, l'aspect politique du règne de Pie XII est plus marqué que celui de Benoît XVI.